France Culture.
Et le journal vous est présenté par Nicolas Balu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. La spirale infernale en Syrie, les violences ont repris aux alentours du fief druze de Soueïda entre factions armées druzes et sunnites. Elles semblent hors de contrôle, ces violences, nous dira Marie-Pierre Véraud. Le durcissement de la politique migratoire de l'Allemagne se poursuit. Plus de 80 Afghans ont été expulsés vers Kaboul. L'ONU demande l'arrêt immédiat du renvoi forcé de tous les réfugiés et demandeurs d'asile afghans. $1 milliard en moins pour l'audiovisuel public, c'est la volonté de Donald Trump et le Congrès vient de l'entériner. De nombreuses chaînes et stations risquent de disparaître du paysage. Explication à Gérard Mohamed. La chaleur de la Terre s'accumule deux fois plus vite qu'il y a 20 ans. Le problème, c'est qu'on ne sait pas mesurer l'ampleur des conséquences d'un tel réchauffement. Les explications dans ce journal de Cécile de Kervoise-Douai. Et puis, la Haute Autorité de Santé a dévoilé ce matin ses premières recommandations sur la transition de genre. Le cas des mineurs n'a pas été abordé, nous dira Julie Paco. À Soueïda, fief de la communauté druze dans le sud de la Syrie, les forces gouvernementales se sont retirées. Un cessez-le-feu a été conclu. Les bombardements israéliens en soutien à la communauté druze, les bombardements se sont arrêtés. Les groupes armés se sont redéployés après le départ forcé de l'armée syrienne. Et pourtant, les violences se poursuivent aux portes de Soueïda. Les affrontements continuent entre combattants tribaux proches du pouvoir syrien et les groupes druzes encerclés dans la ville. Le cessez-le-feu n'a pas tenu. Marie-Pierre Véraud.
Les heurts entre druzes et tribus sunnites bédouines, soutenues par des factions armées venues parfois de régions très éloignées, ont éclaté dès hier, après le retrait de l'armée de Damas. Plusieurs dizaines de clans se sont organisés sur les réseaux sociaux pour aller soutenir leurs frères bédouins attaqués par des factions armées druzes en quête de vengeance. Ils ont déjà pris plusieurs villages à l'ouest de Soueïda. Certains ont été incendiés, mais la population druze s'en était déjà enfuie. Une spirale infernale de vengeance dont on voit mal qui pourrait y mettre un terme. Selon l'agence Reuters, Israël aurait accepté de laisser l'armée de Damas revenir pour 48 heures, mais le pouvoir, pour l'heure, ne s'y prépare pas. Il était intervenu pour tenter de pacifier les heurts entre bédouins et druzes ce week-end. Il a dû se retirer sous la pression d'Israël et a perdu au moins 250 hommes. Certains accusent désormais le gouvernement syrien d'encourager en sous-main les tribus sunnites. La situation semble hors de contrôle dans un pays où les armes abondent et où les rivalités communautaires ont été ravivées. L'ONU appelle à l'arrêt de l'effusion de sang et à des enquêtes impartiales sur les atrocités commises à l'encontre de civils, dont des femmes et des enfants, inaudibles dans le fracas des armes.
Les nouveaux affrontements en Syrie menacent la région, s'inquiète cet après-midi le président turc Recep Tayyip Erdogan dans un entretien avec son homologue russe Vladimir Poutine. Cet après-midi, le gouvernement allemand indique, lui, qu'il soutiendra le gouvernement syrien s'il empêche les persécutions religieuses ou ethniques. Berlin, qui vient d'expulser 80 Afghans condamnés par la justice, un nouveau signe du durcissement de la politique migratoire opéré par Friedrich Merz. Les Afghans concernés ont aussitôt été expulsés par avion. Une initiative qu'a aussitôt dénoncée l'ONU qui demande l'arrêt immédiat du renvoi forcé de tous les réfugiés et demandeurs d'asile afghans compte tenu du retour au pouvoir des talibans depuis 2022. En Allemagne, où l'extrême droite, l'AfD, est en progression constante, l'immigration est au cœur du débat politique. Mais ces expulsions vers l'Afghanistan, où les talibans sont donc de retour au pouvoir, suscitent de nombreuses critiques à Berlin. Sébastien Baer.
C'est la deuxième opération de ce type depuis l'été dernier, mais la première depuis l'entrée en fonction de Friedrich Merz. Déterminé à réduire les flux migratoires, l'une de ses promesses de campagne, le chancelier conservateur défend sa décision, peu importe les critiques.
Aucun d'entre eux n'avait plus de statut de résident. Toutes les demandes d'asile ont été rejetées définitivement sans possibilité de recours. C'est pourquoi ces expulsions ont été possibles. Pour autant, la reconnaissance diplomatique du régime taliban n'est absolument pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas envisageable.
Selon les autorités allemandes, certains des Afghans expulsés ont été condamnés pour violences sexuelles, homicides, incendies criminels ou trafic de stupéfiants. Inquiète du sort qui les attend en Afghanistan, les Nations Unies demandent l'arrêt immédiat de ces expulsions, mais les renvois organisés par l'entremise du Qatar vont se poursuivre, promet le ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt.
C'est le changement de politique annoncé par le nouveau gouvernement fédéral. Nous voulons que le système soit plus rapide. Nous devons être prêts à résoudre les problèmes au lieu de les reporter. Nous devons prendre en compte les préoccupations qui ont émergé dans nos pays ces dernières années en raison de la migration illégale. On ne peut pas les ignorer.
Berlin prépare aussi l'expulsion de délinquants syriens. Jusqu'à présent, la Syrie était jugée trop dangereuse pour autoriser les renvois. Après la crise migratoire des années 2015 et 2016, l'Allemagne a accueilli sur son territoire plus d'un million de réfugiés.
Sébastien Baer, au Brésil, une décision qui ne devrait pas améliorer les relations déjà très tendues entre Brasilia et Washington. Actuellement jugé pour tentative de coup d'État, l'ex-président Jair Bolsonaro s'est vu contraint de porter un bracelet électronique depuis aujourd'hui à son procès. La Cour suprême lui reproche d'inciter à des actes hostiles contre le Brésil. Cette décision intervient en pleine crise diplomatique entre le pays et les États-Unis. Donald Trump dénonce une chasse aux sorcières à l'encontre de son allié d'extrême droite. Le président américain menace le Brésil de droits de douane supplémentaires de 50% à partir du mois d'août. Aux États-Unis, le Congrès vient de voter la suppression des subventions fédérales aux médias de l'audiovisuel public. Plus d'un milliard de dollars en moins pour ces médias. Donald Trump les accuse de dérive progressiste et d'être les ennemis du peuple, je cite. Ce vote pourrait entraîner la fermeture de plusieurs radios et télé locales à travers le pays. À Washington, Agira Mohamed.
Ce milliard de dollars était destiné à la CPB, la Corporation for Public Broadcasting, qui finance les radios et télévisions publiques nationales, mais aussi 1500 médias locaux, de New York à l'Alaska, en passant par le Kansas ou le Nouveau-Mexique. Depuis plusieurs mois, les journalistes et animateurs avertissaient leurs auditeurs et téléspectateurs des menaces qui pesaient sur leur travail. Certaines chaînes avaient même lancé des campagnes de financement. Ce matin, Catherine Maher, la directrice de la radio nationale NPR, a rappelé les conséquences de ces coupes budgétaires.
La conséquence immédiate, c'est qu'on va voir plusieurs médias disparaître. Il y a des radios en Alaska qui reçoivent 70% de leur budget de l'État. Pareil en Virginie occidentale ou dans le Dakota du Sud. Des médias qui servent des communautés entières, avec des programmes pour les enfants, les étudiants, sur la musique traditionnelle. Tout cela est menacé.
Aujourd'hui, plus de 40 millions d'Américains écoutent chaque semaine la radio publique nationale. 36 millions regardent une télévision locale du réseau PBS, relais d'informations précieux, notamment dans les zones rurales, pour informer la population lors des catastrophes naturelles. Les inondations meurtrières au Texas il y a quelques jours l'ont encore prouvé.
Gérard Mohamed, on assiste progressivement en Russie au retour des pratiques très répressives qui rappellent celles en vigueur durant la période de l'Union soviétique. Ainsi, cette décision du Parlement russe d'autoriser les services de sécurité à contrôler et à créer leur propre centre de détention pour les affaires de trahison, d'espionnage et d'extrémisme. Les précisions de Marwaman.
La mesure doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain et suscite la grande inquiétude de l'opposition et des associations de défense des droits de l'homme qui sont témoins de la reconstitution d'un système d'un âge que l'on croyait révolu. Celui du Goulag, hier sous le contrôle du redoutable KGB, remplacé après la fin de l'Union soviétique par le FSB, qui gagne peu à peu en puissance. À partir de l'année prochaine, les services de renseignement russes géreront leur propre centre de détention. Leurs agents seront libres de réprimer tout acte de résistance ou tentative d'évasion et les détenus auront de moins en moins de recours car leurs plaintes seront directement envoyées au FSB. Les aveux seront donc beaucoup plus faciles à obtenir. Tout indique qu'une répression de grande ampleur et inédite se prépare, indique Andrei Soldatov, spécialiste des services secrets russes. Cela au nom d'une meilleure efficacité des enquêtes contre la sécurité de l'État et en réponse aux menaces étrangères brandies par Moscou sur fond de guerre en Ukraine.
Le coup de téléphone d'excuse de Benjamin Netanyahou au pape Léon XIV après le bombardement d'une église à Gaza qui a fait 3 morts. Le pape qui a renouvelé son appel aux négociations pour un cessez-le-feu et pour parvenir à la paix. Le changement climatique est hélas une réalité qui se constate presque chaque jour, mais une réalité qu'il est parfois difficile de quantifier. La chaleur de la Terre s'accumule 2 fois plus vite qu'il y a 20 ans, on le sait désormais, grâce à des données satellitaires qui mesurent aujourd'hui beaucoup plus précisément le réchauffement climatique. C'est le résultat d'une récente étude internationale, notamment française, australienne et suédoise. Le problème, c'est qu'on ne sait pas mesurer l'ampleur des conséquences d'un tel réchauffement, car il produit des réactions en chaîne sur toute la planète, Cécile de Kervas-Doué.
La Terre est aujourd'hui soumise à un déséquilibre. Elle reçoit trop de rayons solaires et ne renvoie plus assez de rayons infrarouges dans l'espace, ces rayons que tout objet rejette. Résultat, elle se réchauffe. Pourquoi ? Parce que l'homme a rempli l'atmosphère de gaz à effet de serre, comme le CO2 ou le méthane, issus de nos usines, nos modes de chauffage, nos déplacements. Des gaz qui bloquent le rejet naturel des rayons infrarouges. Mais il y a d'autres conséquences en chaîne qui viennent creuser ce déséquilibre. Et c'est ce que les scientifiques appellent les rétroactions. Par exemple, la chaleur fait fondre la glace. Or, la glace, ou la neige, permet de renvoyer, de réfléchir les rayons du soleil vers l'espace. Cette glace fondue crée en plus de la vapeur d'eau, qui est elle-même un puissant gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'il empêche les rayons infrarouges de partir vers l'espace, et donc la Terre, de se refroidir. Et puis il y a la question des nuages bas, qui concentrent aujourd'hui toute l'attention des scientifiques. Les nuages bas et denses permettent normalement de refroidir la Terre, et notamment les océans, qui absorbent 90% de la chaleur terrestre. Or ces nuages souffrent des rejets calorifiques du CO2 venu d'en haut, de l'atmosphère, qui les morcelle en de multiples petits nuages, incapables donc de réfléchir les rayonnements solaires. Ce sont toutes ces rétroactions, très difficiles à prévoir, qui expliquent le manque de précision des estimations sur l'évolution du climat du futur. On sait que la Terre se réchauffe, mais on ne sait pas si ce sera de 2 ou de 5 degrés, avec des variations régionales énormes et des conséquences catastrophiques. Mais reste une constante, disent les scientifiques, il faut réduire nos émissions de CO2 qui ont causé tous ces déséquilibres.
L'onde de choc du procès Squarnec, le Squarnec se fait toujours sentir. Le parquet de Lorient ouvre une information judiciaire contre X pour abstention volontaire d'empêcher des crimes et délits. Cette annonce intervient moins de 2 mois après la condamnation de l'ancien chirurgien par la cour criminelle du Morbihan à 20 ans de réclusion pour des violences sexuelles sur 298 victimes, la plupart mineures et en état d'endormissement au moment des faits. Le procès avait mis en lumière notamment des dysfonctionnements des autorités sanitaires, des institutions hospitalière et de l'ordre des médecins. Par ailleurs, un numéro vert a été mis en place pour toutes les victimes du chirurgien, mais également pour les personnels de justice. Accusé de harcèlement moral et sexuel, l'ancien associé d'Éric Dupond-Moretti, l'avocat pénaliste Antoine Vey, a écopé de 12 mois de suspension, dont 5 mois ferme, par le Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris. Une instruction pénale est par ailleurs en cours. Antoine Vey est accusé depuis plusieurs années de harcèlement par d'anciens collaborateurs, hommes et femmes. L'avocat conteste les reproches qui lui sont faits. Après plusieurs reports, la Haute Autorité de Santé a dévoilé ce matin ses premières recommandations sur la transition de genre, un guide de bonnes pratiques à destination des professionnels de santé et des travailleurs sociaux, qui donne donc un cadre pour une prise en charge globale et homogène des personnes qui désirent s'engager dans une transition de genre. Bonsoir Julie Paco.
Bonsoir à tous.
Contrairement à ce que prévoyait la note de cadrage de la Haute Autorité de Santé en 2022, ces recommandations ne concernent pas les 16-18 ans.
Effectivement, parmi les quelques 152 recommandations émises par la HAS, allant de l'entretien initial à la prise en charge de la chirurgie, en passant par la prescription d'hormones, aucune ne concerne les mineurs. La Haute Autorité justifie cette absence par le fait que les données scientifiques ne sont pas suffisamment robustes et ne font pas consensus. Argument qui ne convainc pas le psychiatre d'enfants et adolescents Jean Chambry, qui a participé au groupe de travail mis en place par la HAS.
On a vraiment travaillé sur le chapitre 16-18. On a beaucoup retravaillé, surtout après le groupe de lecture qui avait un peu remis en question un certain nombre de formulations. Et il y avait un consensus. Alors quand j'entends que ce chapitre n'est pas publié parce qu'il n'y avait pas de consensus, je ne comprends pas trop bien. Si en plus on nous dit qu'il n'y a pas assez de travaux scientifiques, il n'y aura pas plus de travaux scientifiques dans un an ou deux, hein, parce que c'est compliqué, c'est des petits échantillons. Et si du coup le consensus d'experts n'est pas considéré comme ayant de la valeur, je m'interroge sur comment on va pouvoir mener ce groupe de travail.
De son côté, le réseau Santé Trans y voit une sortie de route de la HAS par rapport à la note de cadrage. Faite, disent-ils, par complaisance envers des lobbies et des idéologues militants pour une approche correctrice, illégale et néfaste des personnes trans. Et si la Haute Autorité de Santé promet que les travaux reprendront début 2026 pour des recommandations attendues au plus tôt début 2027, d'ici là, les associations accompagnant les mineurs trans appellent à poursuivre les pratiques actuelles dans une approche non psychiatrisante et éclairée par ces nouvelles recommandations concernant les majeurs.
Merci Julie. L'incendie qui dévore la Pinède depuis hier en fin d'après-midi Média Martigues, au nord-ouest de Marseille, n'est toujours pas maîtrisée ce soir, malgré la mobilisation de centaines de pompiers et des moyens aériens conséquents. Un mot du temps, demain, excepté en Bretagne et en Pays de Loire, les averses seront orageuses en Normandie, sur l'ouest des Hauts-de-France, et des orages plus virulents s'étendent du sud de la Lorraine vers la Bourgogne, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, l'Auvergne, le Limousin et le Languedoc-Roussillon. Les températures maximales sont en baisse. Elles vont de 21 à 26 degrés de la Manche à la côte atlantique, de 24 à 29 degrés ailleurs en général. Ce journal est désormais terminé. Il a été préparé avec Annie Brault, à la technique Grégory Wallon.